Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Et nous allons lire au chapitre 9, les versets 1 à 5. Romains chapitre 9, les versets 1 à 5. Et voici la parole de Dieu. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et jusque-là, la parole de Dieu. Donc on revient, on reprend notre étude de cette lettre. On a terminé, rappelez-vous, le chapitre 8 sur une note d'exaltation, un sommet. Paul a posé ces différentes questions. Qui accusera les élus de Dieu ? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et il a répondu avec l'Évangile, c'est Dieu qui justifie. C'est Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui intercède pour nous. Et il conclut en affirmant qu'il n'y a rien dans toute la création qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand on arrive à cette nouvelle partie qui commence ici et qui va nous emmener jusqu'à la fin du chapitre 11, le ton est différent. Les versets qu'on vient de lire, Paul parle de chagrin, il parle de tristesse. Qu'est-ce qui peut expliquer la transition entre le sommet extraordinaire où Paul nous a amenés à la fin de Romains 8 et la tristesse dont il parle ici? Au début du chapitre 9, Paul n'est pas triste parce qu'il est arrivé à la fin de Romains 8. En fait, Paul, si on anticipe un petit peu, Paul va nous emmener encore plus haut. Si on compare la fin du chapitre 8 avec la fin du chapitre 11, on va voir qu'il va nous emmener encore plus haut. La fin du chapitre 8, les derniers versets, Paul dit « car j'ai l'assurance » que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à la fin du chapitre 11, il dira, cette doxologie, c'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et donc la question se pose, alors qu'on jette un coup d'œil, alors qu'on anticipe la fin du chapitre 11, la question est celle-ci. Mais comment est-ce que Paul est venu du sommet de Romains 8 et qu'il est passé par les profondeurs que nous allons voir au chapitre 9 pour ensuite non seulement nous ramener à la hauteur de Romains 8, mais nous aller encore plus loin à la fin de Romains 11? Pour le dire différemment, que font les chapitres 9 et 11, 9 à 11, dans cette lettre aux Romains? Quand on lit les experts, ils ont chacun leur mot à dire. Je ne vais pas vous donner toutes les interprétations, simplement deux extrêmes que l'on peut trouver. Certains, d'un côté, vont dire que voilà, Paul avait un vieux sermon dans sa poche, et il s'est dit, voilà quelque chose qui pourrait intéresser les Romains. Et donc, il l'inclut dans cette lettre. L'autre extrême, c'est de dire que, voilà le cœur de ce que Paul a à dire à ces églises à Rome. C'est la chose la plus importante que l'on trouve dans ces chapitres. Mais bien sûr, aucune de ces deux réponses n'est la bonne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début de ce chapitre 9, au début du verset 1, Paul commence cette section sans faire de transition avec la fin du chapitre 8. Quand il lit les paragraphes, et on l'a vu, quand, dans son raisonnement, dans les 8 premiers chapitres, quand il a développé son argumentation, il a utilisé des petits mots, maintenant donc, c'est pourquoi, des expressions, c'est pourquoi, quoi donc ? Et on a pu suivre l'argumentation de l'apôtre Paul quand il nous a présenté l'évangile. Il est parti de ce verset au chapitre 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et Paul a développé cela. Il a argumenté, il a expliqué pourquoi l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand on lit au chapitre 9, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de connexion avec ce qu'il vient de dire dans les 8 premiers chapitres. Et c'est quelque chose qui frappe si vous lisez la lettre en entier, vous arrivez à ce sommet du chapitre, à la fin du chapitre 8, et puis là, verset 1 du chapitre 9, il y a quelque chose qui vous frappe. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici. Pourquoi Paul écrit-il ces chapitres 9 à 11 ? Il le dit, il est préoccupé par la situation de ses frères selon la chair, les Juifs. Mais pourquoi cette question est-elle soulevée ici, à ce stade de la lettre? Une des raisons qui est évidente et qu'on pourrait passer à côté de cette raison, c'est que depuis le début de la lettre de Paul aux Romains, Paul a souligné que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du païen. Et c'est son grand message, le message de tout son ministère. L'évangile de Jésus-Christ est pour tous, sans distinction, que ce soit pour les juifs, mais aussi pour les païens, parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont sous la colère de Dieu, tous sont condamnés. Mais il y a une bonne nouvelle pour tous. Il y a le moyen de salut en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui, sans distinction, qu'ils soient juifs ou non juifs. Et Paul a aussi précisé, il a aussi rajouté, que cela était pour le juif premièrement. Et alors que Paul a vu et nous a décrit quelque chose de la grandeur et de la merveille de l'évangile, dans le chapitre 8 en particulier, on le voit maintenant faire face à un problème. Ce problème qui s'élève devant lui, si l'évangile est pour le juif premièrement, comment se fait-il qu'un grand nombre de juifs rejettent l'évangile? Ils l'ont rejeté dans le passé, ils le rejettent aujourd'hui. Est-ce que Dieu n'est plus fidèle à sa parole? Est-ce que Dieu a rejeté le peuple qu'il s'était choisi dans le passé? Si l'évangile est pour tous, pourquoi tous les compatriotes de Paul ne croient-ils pas dans le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de personnes d'origine païenne, non juive, qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ que de juifs? Comment est-ce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut du juif premièrement? Et puis il y a encore autre chose. Paul a démontré et puis il s'est réjoui de l'assurance totale que le croyant a dans l'Évangile. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais Paul, tu es juif. Il y a toutes ces promesses anciennes qui ont été données. Ta doctrine de la fidélité, de la justice de Dieu est quelque chose que tu as retiré de l'Ancien Testament. Comment est-ce que tu peux avoir autant de confiance dans cet Évangile si toutes ces anciennes promesses que Dieu a données au peuple qu'il a choisi ne semblent pas être accomplies? Si le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, comment est-ce que toi, tu peux être sûr de ne pas te détourner de Dieu, de ne pas être séparé de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Quand tu vois tant de tes compatriotes apparemment être séparés de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a dans l'argumentation de Paul une logique dans ce qu'il dit. Paul sait déjà, et si nous avons lu la lettre de Romains, nous savons qu'il y a quelques problèmes dans les églises à Rome. Il y a des tensions entre les croyants d'origine juive et ceux d'origine non-juive, d'origine païenne. Ils se disputaient, par exemple, au sujet de respecter certains jours, certains aliments. C'était des choses qui distinguaient les juifs. Ils mettaient à part certains jours dans l'année. Ils mangeaient certains aliments et pas d'autres. Et ces choses les distinguaient des païens. Et certains croyants d'origine juive ont gardé ces pratiques. Mais alors que Paul regarde vers l'avenir, vers l'avant, et sa compréhension de ce que Dieu fait dans l'histoire est importante, non seulement pour la véracité de l'évangile qu'il a annoncé, mais pour l'application de cet évangile à la situation des chrétiens à Rome. Et Paul dit essentiellement trois choses dans ces chapitres 9, 10 et 11. Au chapitre 9, il va traiter la question, la parole, la promesse de Dieu a-t-elle échoué ? L'ancienne promesse de l'alliance de Dieu a-t-elle échoué ? Dans la fin du chapitre 9 jusqu'à la fin du chapitre 10, Paul va traiter la question, qu'est-ce qui fait qu'Israël n'est pas sauvé ? Et dans le chapitre 11, Paul va poser et répondre à une troisième question, est-ce que Dieu a entièrement et définitivement rejeté le peuple qu'il s'était choisi ? Ce sont des questions importantes, des questions excitantes, alors qu'on suit le raisonnement de l'apôtre Paul, un raisonnement inspiré par l'Esprit de Dieu, alors qu'il ratisse l'Ancien Testament et qu'il amène l'Évangile à éclairer ces points qui sont encore importants aujourd'hui. Mais tout ceci n'est pas un problème intellectuel pour l'apôtre Paul. Si à la fin des messages sur ces chapitres 9, 10 et 11, nous n'en retirons qu'une clarté intellectuelle, nous aurons manqué le point principal de Paul. Et ce point principal, il se trouve ici dans les premiers versets du chapitre 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Le point central est donc le premier point de ce message. C'est la grandeur du chagrin, de la tristesse de Paul. Paul n'est pas simplement préoccupé à répondre à une question purement théologique ou purement théorique. Paul est tellement préoccupé qu'il écrit, verset 2, à la fin, « J'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Il nous donne la mesure de ce chagrin. Verset 1, « Je dis la vérité en Christ. » Pourquoi est-ce que Paul précise qu'il dit la vérité en Christ ? Parce qu'il veut souligner combien cette question le touche profondément dans son cœur. « Chers amis chrétiens à Rome, je dis la vérité en Christ. » Et il rajoute « Je ne mens point. » Pourquoi est-ce qu'il dit « Je dis la vérité en Christ » et qu'il rajoute « Je ne mens point » ? Parce qu'en fait, il va encore une fois souligner, appuyer, faire ressortir cette déclaration. C'est une figure de style. On va dire quelque chose de positif et le souligner, l'appuyer par une chose négative. Un parent, par exemple, va dire à son jeune enfant « Marche, ne cours pas !» pour appuyer cela. Il rajoute « Ma conscience m'en rend témoignage » et il précise « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Verset 2 « J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Il y a une mise en garde ici, une mise en garde théologique. On ne peut pas étudier ces chapitres avec l'intérêt d'un théologien du dimanche, en étant confortablement assis dans son fauteuil et en disant « Alors Paul, qu'est-ce que tu nous dis dans ces chapitres ? Qu'est-ce que les commentateurs nous disent au sujet de ce chapitre ?» Parce que le point important, ce n'est pas de savoir ce que les commentateurs disent. Le point important, c'est est-ce que nous connaissons quelque chose de cette passion qui anime l'apôtre Paul. Quand il parle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté l'évangile de Christ. Si on étudie ce chapitre 9 en se disant, voyant quels sont les arguments que Paul nous donne pour nous permettre d'attaquer les Arméniens qui croient dans le libre arbitre parce que nous sommes de fervents calvinistes, alors on passe à côté. On passe à côté du point central. Bien sûr qu'on veut comprendre ce que Paul nous dit. Bien sûr, on veut surtout comprendre ce qu'il nous dira au chapitre 11, verset 26, « Tout Israël sera sauvé ». Certains voudraient qu'on y arrive le plus rapidement possible. Ils veulent connaître la réponse à cette question. Ils ne sont pas les seuls. Mais si c'est mon seul intérêt pour étudier ces chapitres, je passe à côté du point central. Le point central, c'est que dans tout cela, Paul est préoccupé par l'authenticité de l'Évangile, parce que précisément l'Évangile sauve des pécheurs. L'Évangile sauve des pécheurs. Mais c'est intéressant de voir que Paul ne dit pas dans ses premiers versets exactement pourquoi il a dans le cœur un chagrin continuel. Il dit simplement qu'il a ce chagrin. Mais si on regarde au chapitre 10 et au verset 1, il nous dira pourquoi. Le frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Voilà ce qui pousse l'apôtre Paul, la puissance du salut, l'évangile de Jésus-Christ dans la vie d'autres personnes. C'est sa passion d'évangéliste pour le salut de ses compatriotes. Et la raison pour laquelle cela apparaît ici, c'est que justement ça suit le chapitre 8. Quand Paul a vu la majesté de l'Évangile, la beauté, la grandeur, la perfection de l'Évangile, cette majesté de l'Évangile a produit en lui une douleur, un chagrin, parce qu'il aime ses compatriotes. Et il sait qu'ils n'ont pas répondu à cet évangile. Il sait qu'ils l'ont rejeté. Paul veut donc mettre en avant la grandeur de son chagrin. Et c'est bien plus que simplement une question intellectuelle. Paul a le cœur brisé pour ses compatriotes. Et la deuxième chose qu'il dit vient souligner cela. La grandeur de son chagrin est soulignée par la grandeur des privilèges d'Israël. C'est le deuxième point, la grandeur des privilèges d'Israël. C'est intéressant de le noter, c'est la grandeur des privilèges qu'a reçu Israël qui fait croître le chagrin chez l'apôtre Paul. Les Israélites n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi pourquoi ils avaient reçu ces privilèges. On pourrait très bien mettre ce passage en face de ce que Paul dit de lui-même en Philippiens chapitre 3, à son propre sujet. D'ailleurs, même plus tôt dans cette lettre, Paul a parlé de ces privilèges énormes qu'a reçus le peuple juif. Et là, il va un peu plus en détail. Il parle des Israélites à qui appartiennent l'adoption dans l'Ancien Testament. Israël est décrit souvent comme « mon fils ». Dieu appelle Israël « mon fils ». Par exemple, Exode 4, verset 22, par la bouche de Moïse, qui s'adresse à Pharaon, l'Éternel dit « Israël est mon fils, mon premier-né ». Osée 11, verset 1, parlant de la part de Dieu, « J'appelais mon fils hors d'Égypte. » Ils avaient l'adoption, ils avaient la gloire, ils ont vu physiquement les manifestations de la gloire de Dieu, de la nuée, on a lu ce passage, de la nuée de feu qui les conduisait au travers, à travers le désert. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre sur le temple. C'est à eux qu'appartenait la gloire. Ils avaient les alliances faites à Abraham, à Moïse, à David. La promesse de la nouvelle alliance a été faite aussi au peuple d'Israël. Ils avaient la loi. Imaginez, parmi toutes les nations de la terre, il n'y avait qu'un seul peuple qui avait la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Un seul peuple avait la loi de Dieu. Ils avaient le culte, ils avaient accès dans la présence de Dieu quand le souverain sacrificateur, leur représentant, entrait dans le temple. Ils avaient les promesses de Dieu. Combien de promesses l'Ancien Testament contient ? Un très grand nombre. Ils avaient les patriarches à qui ils pouvaient regarder et suivre leur exemple. Ils pouvaient dire « Abraham est mon père, Isaac est mon père, Jacob est mon père et les autres. » Et Paul rajoute à ces sept bénédictions, cette dernière bénédiction vers laquelle toutes les autres pointaient, toutes les autres regardaient. Il dit « Les Israélites, de qui est issu selon la chair le Christ ?» qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Il y a une discussion ici parmi les experts au sujet, pas de la traduction, mais de la ponctuation de ce verset. Alors on peut lire l'autre ponctuation, c'est « De qui est issu le Christ selon la chair, virgule, Dieu, qui est au-dessus de tout ?» soit béni pour toujours. La discussion qu'il y a, c'est de savoir si Paul parle ici du Seigneur Jésus-Christ comme étant Dieu, parce que dans ses lettres, c'est le seul endroit. Paul parle toujours du Seigneur Jésus-Christ en utilisant le terme « kurios », le terme qui veut dire « Seigneur ». C'est ce terme-là qui est utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour traduire le nom « Yahvé ». Donc il n'y a pas de doute que Paul croit dans le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ est réellement Dieu. Certains doutent que c'est ce qu'il dit ici. Mais l'argument le plus facile, c'est qu'un homme donc, comme Paul, qui est ici avec le cœur brisé, qui pense aux privilèges qui avaient été accordés au peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi dans le temps, le cœur de Paul devient de plus en plus brisé quand il réalise qu'ils ont rejeter l'évangile. Il ne va pas s'arrêter ici pour chanter une doxologie. Non, Paul parle ici du privilège inestimable qu'ont connu ses compatriotes, de la venue du Messie qui n'est autre que la deuxième personne de la Trinité. Lui, par qui et pour qui toutes choses ont été créées, est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que nous lisons au début de l'évangile de Jean. Bien sûr, il y a une application pour nous. Ici, plus les privilèges sont grands, plus le cœur est brisé pour ceux qui connaissent ces privilèges et qui n'ont pas répondu à l'évangile. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, en voyant les privilégiés ne pas répondre à l'évangile, certains croyants vont endurcir leur cœur et devenir critique. Il y a sans doute une place pour être critique, mais ce n'est pas ici. Ici, on voit Paul avec un cœur qui est brisé. Une tristesse, une grande tristesse, un chagrin continuel, parce qu'ils ont eu des privilèges. Ils n'ont pas compris pourquoi. Ils n'ont pas vu vers quoi tendaient ces privilèges. Et la troisième chose que nous voulons mettre en avant, après avoir vu la grandeur du chagrin, de la tristesse de Paul et la grandeur des privilèges de ses compatriotes, c'est troisièmement la grandeur de la préoccupation de Paul. On le voit réfléchir, on le voit raisonner. Certains d'entre nous se rappellent peut-être des premiers jours où, de notre vie chrétienne où nous avons été amenés à la foi en Christ et on désirait voir nos familles, nos membres, les membres de nos familles, nos proches, nos frères, nos sœurs, les autres membres de la famille, découvrir cette nouvelle vie en Jésus-Christ. On veut voir nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, nos enfants. Peut-être que nous ressemblons à Monique, la mère d'Augustin. L'évêque de Milan, Ambroise, a trouvé Monique en larmes et lui a demandé ce qui n'allait pas. Et elle répond, « C'est mon fils Augustin, il n'est pas chrétien. » Voilà la préoccupation d'une mère croyante pour son fils. Et cette attitude découle des privilèges qui nous sont accordés. C'est la merveille et la grâce de l'évangile de Jésus-Christ qui nous font avoir ce sentiment profond, ce chagrin si intense que nous disons avec Paul que nous avons dans le cœur un chagrin continuel pour ceux de nos familles, nos parents selon la chair, nos enfants, ceux de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une raison spéciale pour laquelle Paul connaît cela, mais en tant que chrétien, nous aussi, nous connaissons cette expérience. Cela fait partie de la vie chrétienne. Quand nous avons goûté la gloire de l'Évangile, nous voyons le besoin et les ténèbres d'une manière plus claire qu'auparavant. Il y a quelques mois, quand nous étions en train d'étudier Romains chapitre 7, j'ai dit que nous ne devrions jamais quitter Romains 7 pour entrer dans Romains 8. C'est-à-dire que même lorsque nous goûtons la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies, nous ne laissons pas derrière nous les luttes et les difficultés. J'ai même précisé que j'espérais que nous ne sortirions jamais de Romains 5, Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Ce matin, j'ajouterai que si nous sommes chrétiens, nous ne devrions jamais sortir de Romains 9 non plus. Connaître l'extase, l'euphorie de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et en même temps, d'avoir un chagrin continuel dans le cœur pour nos proches, pour nos contemporains, pour nos compatriotes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est difficile de connaître les deux choses en même temps, mais ces deux choses seront vraies dans nos vies. On ne pourra pas y échapper tant que nous serons dans ce monde. La vie chrétienne, c'est Romains 5, Romains 6, Romains 7, Romains 8 et Romains 9, tous liés ensemble. Si nous ne connaissons pas ce chagrin, ou si nous ne connaissons que ce chagrin, notre vie est déséquilibrée. Mais après avoir lu et vu et compris et être dans l'émerveillement de ce que Paul nous dit à la fin de Romains 8, nous devrions aussi connaître ce chagrin pour les autres. Ce que l'Évangile produit chez ceux qui saisissent la merveille, la grandeur, la gloire de l'Évangile, c'est une compassion pour d'autres pécheurs. Et parfois, ces pécheurs peuvent le voir, voir notre compassion pour eux. Notez ce que Paul dit au milieu de tout cela, au verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Ça, ce n'est pas la réaction d'un religieux. Ça vient d'une passion pour le salut d'hommes et de femmes qui sont nos parents selon la chair, des personnes qui nous sont proches, des personnes que nous connaissons. Et Paul le dit d'une manière assez délicate. Il dit « Je voudrais ». Il sait qu'il ne peut pas être anathème. Il sait qu'il ne peut pas être séparé de Christ. Peut-être qu'il se rappelle de Moïse, quand Moïse s'est présenté devant Dieu après la désobéissance du peuple d'Israël, quand le peuple a fabriqué ce veau d'or. Et on lit en Exode 32, verset 32, l'intercession de Moïse. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Mais Moïse n'a pas été effacé du livre de Dieu. Paul n'a pas été séparé de Christ. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut supporter la malédiction pour le salut d'autres. Cette personne est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui peut supporter la malédiction pour le salut d'autres personnes. Cette personne est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul désire ardemment le salut de ses frères, de ses parents selon la chair. Il est préoccupé par leur destinée éternelle. Qu'est-ce qu'on peut dire en application ? Trois choses. Si on cherche une preuve que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas antisémite, nous l'avons ici. Paul était accusé d'être contre les Juifs, d'être contre la loi. Alors que c'est une des rares personnes en Israël dont le cœur est brisé parce que ses compatriotes refusaient de croire dans le Messie, refusaient de venir à Jésus-Christ, refusaient d'accepter l'Évangile. La deuxième chose, Paul aborde la question du salut de ses compatriotes parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre chemin que du salut, que la foi en Jésus-Christ. Il ne dit pas ce qu'il dit ici pour ensuite dire qu'il y a plusieurs moyens d'être sauvé. Non, il dit ces choses parce qu'il sait qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé. C'est par la foi en Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est que le cœur qui a saisi la gloire de l'Évangile aura la préoccupation de faire connaître cet Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore saisi. Vous vous souvenez peut-être des paroles des disciples alors qu'ils étaient au milieu de la tempête avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être les paroles les plus terribles que nous trouvons dans le Nouveau Testament, Marc 4, verset 38. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais le maître s'inquiétait. Si, c'est pour ça qu'il est venu dans le monde, pour sauver les siens, pour racheter les siens. Mais que se passerait-il si Jésus lui-même nous posait la question? Ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'ils périssent? Ne t'inquiètes-tu pas, ne te soucies-tu pas de ce qu'ils périssent? C'est un passage qui est très riche. Très riche. Et nous allons y passer plusieurs semaines. Et que Dieu donc nous aide à comprendre ces choses, qu'il transforme nos vies par sa parole. Et que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.